Vous écoutez RTL.
Il est 15h03, vous êtes sur RTL et on est fait pour s'entendre, bien sûr, comme chaque jour avec Flavie Flamand. Bonjour Flavie.
Bonjour Marie Guerrier. Marie, vous nous écoutez parce que l'émission va être intéressante et émouvante aussi cet après-midi. Et je vous rends l'antenne à 16h pour un prochain point sur l'actu. À tout à l'heure, merci. Comment grandit-on sans parents qui nous ont abandonnés, qui sont décédés ou dont on a été retirés? On prend les enfants par la main cet après-midi en direct sur RTL. À tout de suite.
15h, 16h. Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus dans On est fait pour s'entendre. On est fait pour s'entendre, vous le savez, c'est le rendez-vous radio où vous ne risquez rien, sinon d'en ressortir plus ouvert, plus entouré, plus curieux aussi de votre prochain. C'est fou ce que cette émission fait du bien, nous écrit Diane. Eh bien Diane, vous avez raison. Et sachez qu'il en est de même pour nous, toute l'équipe de cette émission qui chaque jour grandit en vous écoutant et en partageant avec vous sur l'antenne d'RTL. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, vous le savez. Et dans un instant, vous allez entendre le témoignage touchant, bouleversant, instructif aussi de Sébastien. Et si comme lui, vous souhaitez nous éclairer de votre expérience, eh bien vous pouvez appeler dès maintenant le 3210, notre standard vous est ouvert, ou vous rendre sur les réseaux sociaux pour vous exprimer. Abandon, décès, défaillance, certains enfants se retrouvent sans parents au commencement de leur vie. Cabossés par cette épreuve, ils sont pris en charge par des membres de leur famille, des adoptants, des familles d'accueil, des associations ou l'aide sociale à l'enfance. Alors comment grandir sans ses parents? Les figures de résilience permettent-elles de se construire sereinement malgré l'absence? Quel adulte devient-on? On en parle aujourd'hui avec nos invités. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RTL, Nicolas. Merci. C'est votre première émission de radio?
Oui.
Comment ça se passe? Vous êtes bien? Tranquille?
Un
ça va
stressé.
Aller? Bon, il faut se détendre. On est tous ensemble aujourd'hui. Et puis vraiment, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, vous êtes électrotechnicien dans le sud de la France. Si on regarde... Quel âge avez-vous?
21 ans.
21 ans. Alors, Nicolas, si on regarde dans le rétroviseur, vous et moi, le rétroviseur de votre vie, est-ce que vos parents ont été un petit peu là ou pas du tout là?
Très peu présent.
Oui. Qu'est-ce qui s'est passé?
L'histoire, je la connais pas trop.
Oui.
Je suis arrivé très tôt en village d'enfants.
Oui. SOS Village d'enfants, une association dont on va parler pendant cette émission.
Je suis arrivé à l'âge de 3 ans, donc vraiment retiré très tôt de mes parents.
Petit bonhomme. Oui.
Et donc, au fil de ma vie, j'ai essayé de m'en sortir.
Est-ce qu'on peut dire que vous vous en êtes bien sorti?
À l'heure d'aujourd'hui, oui.
Comment vous vous sentez aujourd'hui? Est-ce que, à cette question, comment peut-on grandir sans parents? Qu'est-ce que vous répondez, vous, Nicolas?
C'est difficile de grandir quand même sans parents.
Oui.
Parce qu'on a toujours ce manque maternel. Mmh. Après, on trouve des solutions pour pallier à ce manque. Mmh. Notamment avec mes frères et sœurs, où on se soutient beaucoup.
Oui.
On s'entraide énormément. Mmh. Et de là, on s'est fait une situation. Mmh. Et on continue à maintenir cette entraide à l'heure aujourd'hui.
Voilà, continuer, maintenir des propos qui sont choisis, ça n'est pas un hasard, on va y revenir, mais tout va bien se passer, vraiment Nicolas. Il en est une qui est à peu près dans le même état que vous, vous le savez, dans ce studio, c'est Alexandra. Bonjour Alexandra.
Bonjour.
Tout va bien se passer Alexandra, vous aussi, je le dis, vous allez voir, on va passer une heure passionnante. Alors vous, vous êtes une maman, non pas maman biologique d'enfant, mais vous êtes une maman, une mère SOS d'enfant au village justement de SOS de Busigny, ça fait maintenant 3 ans. Quand vous entendez un jeune homme comme Nicolas qui explique qu'effectivement il a eu ce manque, et on y reviendra, de la mère, visiblement, et qu'il a, à travers la fratrie, senti aussi une chaleur qui lui a permis d'avancer. Est-ce que vous aussi, votre rôle en tant que mère bénévole SOS au village, est-ce que votre rôle, c'est justement d'amener ces enfants à nourrir d'autres liens qui vont leur permettre d'avancer, même s'ils n'ont plus leurs parents?
Ben, c'est surtout qu'on veut garder le lien fratrie et ce village d'enfants, c'est ça.
Oui.
C'est que des enfants viennent de différents lieux d'accueil et on les regroupe pour qu'ils continuent à avoir ce lien fratrie jusqu'au bout.
Voilà, sinon les capitaines du bateau, ils sont toujours ensemble en tout cas.
Voilà, pour qu'ils continuent à construire des liens ensemble, même s'il n'y a plus les parents.
C'est votre rôle à vous justement de favoriser ces liens fraternels?
Oui.
Bon, vous allez nous expliquer aussi comment ça se passe au quotidien, Alexandra. Et puis, nous avons aussi le plaisir aujourd'hui de recevoir le psychanalyste Jean-Pierre Winter. Bonjour Jean-Pierre Winter.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation, auteur d'ouvrage « Transmettre ou pas » chez Albin Michel. Peut-on croire à l'amour chez Le Passeur ? Peut-on croire qu'un enfant puisse grandir sans la présence de ses parents ? Physique, j'entends.
De fait, les enfants orphelins, par exemple, ont un développement qui, dans l'ensemble, ne pose pas plus de problèmes que pour les autres.
Oui.
D'autant que, chacun le sait, les familles peuvent être d'autant plus toxiques
oui.
qu'elles paraissent ne pas l'être.
Absolument.
Donc, c'est difficile d'avoir un point de vue très général. Je citerai le mot très connu de Jules Renard. Mmh. Tout le monde n'a pas la chance d'être orphelin.
Mmh.
C'est évidemment ironique, mais il était bien placé pour le dire. Lui, qui avait eu une mère particulièrement revêche et dont il se serait bien dispensé.
Voilà, malfaisante.
Malfaisante, mmh. comme Hervé Bazin plus tard.
Avec sa mère Folcoche.
Et donc, il faut envisager les choses cas par cas et ne pas tirer trop rapidement de grandes généralités. Mais ce que j'entends déjà dans ce qui est dit, c'est que le manque est central.
Oui.
Le manque maternel, surtout,
c'est ce que nous dit Nicolas.
Mais que ce qui pallie ce manque, ce sont des liens horizontaux, plutôt que verticaux, dans lesquels les liens de sang sont fondamentaux.
Hein,
c'est-à-dire que vouloir recréer du lien à partir des frères et sœurs, ça n'est pas la même chose que de vouloir recréer du lien à partir simplement d'amitié ou de sympathie avec des gens qu'on rencontre du fait du hasard.
Dans un instant, nous allons entendre le témoignage de Sébastien. Sébastien va nous livrer son histoire, à lui aussi, qui est bien différente de celle de Nicolas. Vous êtes sur RTL aujourd'hui, donc nous parlons de ces enfants qui doivent grandir sans leurs parents. Si vous voulez témoigner, c'est au 3210 que l'on vous attend. A tout de suite.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Voilà, c'est une émission touchante à laquelle nous vous invitons aujourd'hui. Vous êtes sur RTL et nous parlons de ces enfants qui doivent apprendre à grandir sans des bras qui les serrent, et notamment les bras de leurs parents. Et ça change tout quand on n'a pas des parents qui nous prennent dans les bras, n'est-ce pas Jean-Pierre Winter ? Vous êtes l'un de nos invités, vous êtes psychanalyste. On entendait aussi Nicolas, et vraiment je vous remercie Nicolas d'avoir accepté notre invitation. Nicolas, il est sorti récemment d'un village SOS d'enfants pour prendre votre envol, Nicolas.
C'est ça.
Vie en main et donc vous affirmez aussi à travers votre métier d'électrotechnicien. Et puis Alexandra Magie, elle est maman SOS Village d'Enfants. Mère SOS, est-ce qu'on dit maman ? Les enfants vous appellent
non.
maman ou pas ?
Non, pas du tout.
Voilà, c'est bien pour ça que je vais reformuler. Mère SOS Village d'Enfants. Jean-Pierre Winter, ses bras. Nicolas, on entendait il y a un instant nous dire, voilà, ce qui m'a manqué c'est le besoin d'une mère. Les bras des parents, c'est quand même quelque chose qui normalement entoure, c'est quand même une main qui nous apprend à marcher, c'est essentiel. Quand on n'a pas goûté à ça, comment on fait ? On a un trou en soi ? Il nous manque quelque chose ?
Très certainement, mais les bras, c'est le portage, c'est la manière dont on est porté.
Oui.
Bébé, c'est un langage, donc. Mmh. À travers la façon dont on est porté, tout le monde sait, par exemple, que les mamans africaines ne portent pas leurs enfants de la même manière que
c'est les
mamans européennes, pas plus que les sud-américaines, par
c'est
exemple.
Vrai.
Donc c'est un langage, en fait. Mmh. Et c'est un langage qui vient complémenter ce qui est absolument nécessaire, à savoir que l'enfant soit quasiment... dès le moment où il est abandonné, en deuil, ou ayant avoir été séparé de ses parents, qu'il sache son histoire, qu'on lui parle de son histoire, sans prendre le prétexte, par exemple, du fait qu'il ne comprendra pas.
Mmh. Même tout petit.
Même tout petit. Parce que, par exemple, ce que Françoise Dolto a très bien montré, c'est que la question n'est pas de savoir s'il comprend les mots, il comprend le message. Et lui restituer son histoire, c'est-à-dire lui dire, il y a un très beau cas de Françoise Dolto comme ça, qui raconte l'histoire d'un bébé qui ne voulait plus manger, qui faisait la grève de la faim, ce qui est quand même très très rare. À partir du moment où elle lui a raconté son histoire, les yeux dans les yeux, où elle lui a dit que ses parents étaient morts dans un accident de voiture, si ma mémoire est bonne, où elle lui a raconté la famille d'accueil qu'il a reçue, où elle lui a dit quelles ont été les particularités de son parcours, eh bien, tout simplement, le bébé a pris son biberon, presque, alors on dirait, miraculeusement, en tout cas, énigmatiquement. Mais en tout cas, ça témoignait de ceci. Les bébés comprennent pas forcément tout ce qu'on leur dit, mais ils comprennent l'intention, ils comprennent le message, et ils comprennent qu'on s'adresse à eux, ce qui est évidemment leur rend une personnalité, leur rend la possibilité de vivre. Et donc les bras, c'est l'autre façon de transmettre, hein, c'est-à-dire de dire tu es un être qui n'est pas fini, tu es un être qui a encore besoin de la chaleur humaine, et tu dois connaître les contours de ton corps, tu dois savoir que tu as un corps, et tu le sauras par mes caresses, par mes baisers, etc.
Voilà, c'est la reconnaissance, hein, que de toucher un enfant, que de le prendre dans les bras ou que de lui parler. Nicolas reviendra sur le fait qu'il vous manque une partie aussi, hein, vous, de votre vie que vous ignorez. Mais on va accueillir, si vous le voulez bien, tout de suite, Sébastien sur l'antenne d'RTL. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Bien, hein, ravi d'être avec vous.
Merci à vous, ravi aussi de vous entendre. Comment va Louis, votre petit garçon de 3 ans ?
Écoutez, là, il a la sieste, il va très bien, il porte très bien.
Il dort serein, ce petit bonhomme. Il dort serein parce qu'il a sa maman auprès de lui, Émilie, votre compagne depuis 6 ans. Il a son papa qui veille sur lui, Sébastien. Et c'est vrai que si Louis, aujourd'hui, a cette chance, hein, d'avoir la bienveillance de ses parents autour de lui, ça n'a pas été forcément votre cas. Vous restez avec nous, Sébastien, dans un instant, vous allez nous raconter votre vie parce que vous la connaissez un petit peu quand même. En tout cas, vous connaissez votre parcours et vous allez, si vous le voulez bien, nous le faire partager dans un instant, ok ?
Il n'y a pas de souci.
Bon, et puis, si Louis se réveille, il peut venir avec nous aussi. Il n'y a pas de problème. Allez, à tout de suite, Sébastien, sur RTL.
Vous écoutez RTL.
15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Sur RTL, nous écoutons le témoignage de Sébastien et on se demande aujourd'hui comment grandir sans parents. Et Marc-Antoine sur Facebook nous écrit « Je ne le souhaite à personne ». Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sébastien ?
Ah ben non, forcément, on peut pas le souhaiter à qui que ce soit, surtout pas un enfant qui va se retrouver soit arraché à son enfance, hein, finalement, parce que moi, j'ai pas eu la chance d'avoir vraiment une enfance. Hein. Donc non, on peut vraiment le souhaiter à personne. Après, il y a des circonstances qui font que moi, je sais que j'ai été, je considère que j'ai été lâchement abandonné. Hein. On va dire comme ça. Après, voilà, je suis passé de la pouponnière à des foyers, famille d'accueil à l'époque, c'était pas, comme je le précise toujours, famille d'accueil, après, c'est ils sont payés en fait pour accueillir les enfants. Donc c'est pas la même chose, il y a pas le même amour. Et oui, effectivement, comme j'entendais avant le dire, il manque ça, hein, les bras des parents, l'éducation, il y a tout qui manque en fait. Moi, je suis tombé dans une famille d'accueil où il y avait aucune éducation.
Vous êtes mal tombé.
Je suis très mal tombé. Et je ne suis pas le seul, hein, j'en connais d'autres.
Ce n'est pas une généralité, mais parfois, effectivement, malheureusement, il y a des impairs. Mais en fait, vous êtes né un 21 décembre. C'était le premier jour de l'hiver. Et l'hiver, il a duré longtemps pour vous, en fait, hein, Sébastien. Comme vous le disiez, vous n'avez jamais connu vos parents.
Non. J'ai connu ma mère à l'âge de 20 ans, mais ça a été furtif et je l'ai regretté, en fait. Hein. Voilà.
Revenons en arrière, si vous le voulez bien. Vos parents ont disparu de votre vie parce que vous avez été un petit bonhomme abandonné, c'est ça ? On peut le dire comme ça ?
C'est ça.
Ouais. Alors ensuite, vous le disiez, pouponnière, famille d'accueil, foyer, la rue, l'émancipation, à 14 ans. Aujourd'hui, vous avez une belle famille avec ce petit Louis qui fait la sieste, avec votre compagne Émilie qui est à côté de vous. Néanmoins, ça a été une succession de rendez-vous manqués avec la tendresse, quoi. Hein ?
Ah oui, ouais. Comme je l'ai dit, c'est moi j'ai rencontré le véritable amour, comme on dit, que ce soit même maternel, hein, j'arrive à retrouver en ma femme un semblant de mère que j'ai pas eu, hein, parce que après l'éducation, je me suis forgé tout seul, mais ouais, effectivement, le fait d'avoir rencontré ma femme, d'avoir fait un enfant avec, ça a été un bon coup de pied à ce que la vie a pu me donner jusqu'à présent, c'est-à-dire rien. Effectivement, quand on est à 14 ans émancipé, qu'on se retrouve à la rue, à 14 ans, après c'est le premier boulot. Donc, il faut essayer de s'en sortir, il faut se construire une vie, il faut se construire une identité aussi. Ça, c'est le plus dur, hein. Quand vous allez à l'école, vous n'avez pas une identité, il vous faut une identité. Alors, soit vous la connaissez, vous la révélez, soit vous en inventez une.
Mmh. Ça a été donc, votre cas dit, moi, qu'est-ce que vous disiez, vous, quand vous étiez petit?
Ah, moi, comme je l'ai dit, moi, j'ai porté, on va dire, un masque, on va dire comme ça. Mmh. C'est-à-dire qu'en fin de compte, je le savais, hein, que là où j'étais, ça n'a jamais été mes parents.
Ouais.
Je le savais pertinemment. Et j'ai jamais dit que ce n'était pas mes parents.
Ouais.
Mais pour autant, j'ai jamais dit que c'était mes parents.
Oui.
J'ai toujours fait en sorte de contourner quoi que ce soit. C'est-à-dire que même le peu de temps où j'ai pu être à l'école à cette époque-là, il y avait les fêtes de Noël. C'est pas compliqué. La seule fête de Noël de l'école où j'ai pu aller, tous les autres enfants avaient leurs parents. Moi, j'y suis allé comme un clampin, tout seul, j'avais 7 ans. Mmh. Ça peut faire un petit peu mal.
Bien sûr, voilà. Pas qu'un peu.
Ça peut faire mal. Maintenant, voilà, j'ai pas demandé non plus. Le problème qu'il y a, c'est que les enfants ne demandent pas. Mmh. C'est sur les enfants qui prennent, hein, à ce moment-là, puis on ne souhaite pas ça. C'est dur. C'est dur, après, voilà, moi j'ai avancé un petit peu. Hein.
Ah bah vous avez bien avancé aussi, parce que je pense que vous pouvez être fier aussi de votre parcours. Et puis on sent qu'aujourd'hui, malgré tout, vous avez réussi à fonder votre famille, parce que c'est une réparation aussi que de fonder une famille quand on n'en a pas à la base. Ah. Et de se dire que cette famille, c'est nous qui l'avons faite. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, bah, surtout que je n'y croyais pas. En fait, je n'y croyais pas. Hein.
Si
je croyais pas. Non, en fait, avant de connaître mon ami, j'étais plus le petit voyou.
Ouais.
J'avais un petit peu aussi à une époque mal tournée, etc. Un peu.
Et l'amour, ça vous a fait rentrer un petit peu plus dans le ça vous a apaisé.
Ouais. Ah oui, ah ouais.
Et dites-moi, ah Sébastien, oui. Vous étiez en colère quand vous dites que...
Ah,
mais
je le suis.
En colère contre qui, oui. Contre quoi?
Alors, en colère, je le suis encore à l'heure actuelle. Mm-hmm. Alors surtout que le peu de temps où j'ai pu parler avec ma mère, quand elle m'a dit les raisons, les comment tout ça s'est passé, et c'est là où je dis, c'est la plus grande erreur, c'est de vouloir essayer de faire marche arrière et de savoir qui on est, d'où on vient, pourquoi on est venu d'ailleurs. Mmh. Et parce qu'à ce moment, on se demande aussi pourquoi on est là.
Mmh, bien
alors
sûr.
Si, c'est très important. Pourquoi on nous a mis au monde, si finalement c'est pour ne pas nous aimer, ne pas nous élever, etc. Pour ma part, je pense, je suis pas un intello du tout. Par contre, je me suis posé de graves questions un petit peu trop jeune. Mmh. À savoir que moi, on m'a envoyé voir un psy très tôt. J'ai fugué. Je savais que je n'étais pas la personne qu'on voulait que je sois, en fait.
Alors, vous savez ce qu'on va faire? Oui, je vois très bien ce que vous voulez dire, Sébastien. Très très bien. Il y a Nicolas qui vous écoute avec attention, et puis Jean-Pierre Winter, et puis Alexandra aussi. Est-ce que vous voulez bien rester un petit peu avec nous, Sébastien? J'aimerais bien que vous nous disiez, si vous l'acceptez évidemment, ce que vous avez entendu le jour où vous avez rencontré votre mère, quand vous parlez d'une belle erreur. On se retrouve dans un instant.
Oui, il n'y a pas de souci.
Ok, merci beaucoup. À tout de suite, Sébastien.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Sébastien, vous êtes toujours avec nous. Fanfan nous écrit « Être dans une famille toxique ou être sans famille sont deux choses bien différentes avec leur propre manque, tout aussi douloureux. » Vous avez raison, Fanfan. Bravo à Sébastien qui s'est parlé du manque. C'est très courageux. Ce que je sais, c'est que pour poursuivre son chemin, il faut savoir s'entourer de beaucoup d'amour. Bravo aussi à Nicolas et à Alexandra. Greg qui nous écrit également sur Facebook. « Sébastien, Nicolas, Alexandra, je suis admiratif de cette force que vous avez en vous. Chapeau. » Et puis Christelle qui nous disait il y a un instant qu'elle avait l'âme en miettes en vous écoutant, Sébastien. Sébastien, quand vous sentez à quel point votre histoire nous touche en plein cœur, est-ce que cette affection, ce regard que l'on pose sur vous, c'est un regard qui vous fait du bien?
Ah oui, ah bien sûr. Ça rassure en se disant que, tout simplement, qu'on est, finalement, on est comme les autres, quoi. Mm-hmm. Hein, c'est pas parce qu'on n'a pas, on a eu tout ce manque étant petit et qu'on a grandi, finalement, un petit peu différemment que les autres. Ou... Mm. On a chacun. Mais si, ça fait énormément de bien. Moi, personnellement, ça me touche même voir. Il y a des messages que je reçois aussi, moi, sur Facebook, qui me touchent beaucoup. Hein. Mmh. Justement, ouais.
Bah, allez sur nos réseaux sociaux, vous verrez après, là, vous vous ferez un grand shoot d'amour là, parce que et de soutien, je peux vous le dire. Sébastien, vous avez retrouvé votre mère à l'âge de 20 ans. C'est vous qui l'avez cherchée?
Oui. Ouais.
Elle a
accepté... dire que j'avais...
Ouais.
Oui, non, dites.
Non, non, dites-vous. Allez-y.
C'est-à-dire que j'ai réussi au fil des années comme ça à me lier d'amitié en fait avec le directeur de la DAS. en Alsace, là où je vivais, ouais. D'où je viens. Et c'est lui qui a fait les recherches pour moi, alors qu'il m'avait déconseillé de le faire. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, bien. En fin de compte, j'ai pas écouté son message. Mmh. Et j'ai incité, en fait, à le faire quand même. Et puis, finalement, j'ai rencontré ma mère. Et puis, oui, je le regrette, bien sûr.
Pourquoi ?
Qu'est-ce qu'elle vous a dit ? Ben surtout, déjà, la première des choses, c'est qu'en descendant du train pour aller la voir, eh ben, je m'attendais quand même à, je sais pas, un petit peu de chaleur humaine, quelque chose, ou un pardon, ou quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire ?
Très bien.
Donc finalement, non, c'est juste caché derrière le fait que j'ai demandé quelques explications. Elle m'a simplement dit qu'un jour, mon père l'aurait envoyé chercher du pain. Et quand elle est revenue, elle avait ses valises devant la porte. Et puis moi, j'étais déjà à la pouponnière, en fait. Hein.
Oh, d'accord.
Encore une heure, ils avaient tout réglé, tif-taf. C'était, voilà. Mais on apprendra aussi que finalement, ils ne se sont jamais séparés et qu'ils auront eu un autre enfant ben, qui a fini dans la même situation que moi.
Que vous connaissez ?
Et que je connais, ouais, ben, il a fini la pouponnière avec moi, finalement. Ouais. On a eu ça aussi, très important, on a eu la chance d'évoluer dans les deux mêmes familles d'accueil qu'on a fait. On a été pris chaque fois ensemble. Mm-hmm. Je sais pas, moi j'estime que c'est une chance quand il y a plusieurs frangins ou il y en a qui sont séparés. Hein. On a eu cette chance-là. Donc malgré le malheur, on avait quand même la chance d'être ensemble et on se soutenait un petit peu mutuellement jusqu'à l'âge de 12 ans. Voilà. Et puis autrement, voilà, pour ce qui est de ma mère, elle a jamais demandé pardon, rien du tout. Elle se cache derrière ce fait-là. Et du coup, j'ai appris que de toute façon... Finalement, entre-temps, après nous, hein, il y a 30 ans qui se sont passés, enfin 20 ans qui se sont passés, mais là, on a eu d'autres, ils ont tous fini aussi à la DAS, en fait. Et voilà, c'est une marche quotidienne de la dame, quoi.
Alors, Sébastien, vous savez que Nicolas est dans ce studio aussi. Nicolas, on peut se tutoyer, Nicolas, c'est plus simple, on a quasiment le même âge, toi et moi. Ça fait rire tout le monde, j'aimerais bien comprendre pourquoi. Nicolas, quand tu écoutes le témoignage de Sébastien, est-ce que tu as des choses à dire, à partager aussi avec Sébastien ?
Ben, moi, je reprends ce qu'il disait sur grandir avec ses frères et sœurs.
Ouais.
Pour moi, c'est le plus important. Parce que même si les parents font des erreurs, les frères et sœurs, c'est ce qui restera toujours.
Est-ce que toi aussi, tu as été en colère, comme Sébastien ?
Contre ma mère, j'ai été très en colère. Parce que au départ, on n'était que trois. On a été retirés. Elle en a refait. Elle a abandonné et elle en a refait un. Et à chaque fois, on ne comprend pas pourquoi elle continue à en faire, alors que nous, on galère derrière.
C'est cette idée d'une histoire dramatique qui se reproduit à chaque fois avec une forme d'inconséquence à la base, quoi. Est-ce que tu t'es demandé, toi aussi, comme Sébastien nous le disait il y a un instant, je me demande pourquoi je suis là ?
À une période, je l'ai fait.
Ouais. Tu sais que c'est chouette que tu sois là quand même. Hein ?
C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde de faire de la radio. Non, mais pour parler de son histoire.
Je sais, j'imagine. T'as été en colère contre elle.
Oui,
tu t'es demandé toi aussi s'il y avait une bonne raison pour que tu sois là.
Et non, je lui pardonnerai jamais ce qu'elle a fait.
Sébastien, vous nourrissez encore de la rancœur aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes passé à autre chose parce qu'il y a Louis, parce qu'il y a votre compagne Émilie et que tout va bien pour vous aujourd'hui ?
Ben surtout, tout va bien pour moi aujourd'hui, bien sûr. Le fait d'avoir ma femme, d'avoir mon fils, c'est amplement le bonheur qu'il me faut. Et non, de la rancœur, on va pas. Si j'ai toujours de la rancœur, j'en aurai toujours envers elle. C'est même plus de la rancœur, c'est une espèce de haine. Et voilà, mais voilà, c'est-à-dire qu'en fin de compte, je l'ai mis totalement de côté. C'est que s'il me vient d'y repenser ou quoi que ce soit. Mais autrement, non, là, à l'heure actuelle, ça m'est passé un petit peu par-dessus, on va dire. Après, il est permis à tout le monde d'avoir ses coups de moins bien et de repenser et de se dire, mince, j'ai un enfant, mais j'ai pas de grands-parents à lui présenter, quoi, par exemple.
Je comprends. Ouais.
Il y a plein de petits trucs, donc non, je pourrais pas, forcément qu'on peut pas pardonner. En même temps, moi, dans ma situation, je l'ai connue à l'âge de 20 ans, j'ai rien de quand j'étais petit avec elle. Donc de toute façon, elle peut me dire ce que... Voilà, ma vie, je l'ai faite toute seule, Je l'ai faite toute seule, ma vie, j'ai dû forger une identité, un caractère, je me suis éduqué tout seul, 14 ans, émancipé majeur. vous n'avez plus d'adultes autour de vous, à part ceux que vous mettrez tout au long de votre chemin, quoi.
Sébastien, vraiment votre témoignage nous touche. Elle Meister qui met incroyablement émouvant ce témoignage de Sébastien. Courage mon grand, c'est touchant, voilà. Et ça, c'est pour vous Sébastien, c'est aussi pour toi Nicolas. Sébastien, vous allez rester à notre écoute j'imagine. Dans un instant, on va poursuivre nos échanges avec Alexandra et avec Jean-Pierre Winter. Moi je voudrais vous remercier parce que je vous ai trouvé aussi super touchant et vous nous avez formidablement éclairé aujourd'hui. Et je me permets, si vous voulez bien, de vous embrasser. Si Émilie veut bien aussi d'ailleurs.
Ben, bien sûr, on y fait de même.
Et prenez soin de vous. Hein, profitez.
Je vous remercie.
Je vous embrasse. Prenez soin de vous. On est tout cœur avec
journée.
Vous. Salut Sébastien.
Je vous remercie. Merci à tous. Bonne journée.
Au revoir.
Vous écoutez RTL.
Jusqu'à 16h, Flavie Flamand sur RTL.
On est fait pour s'entendre.
Ma mère m'a abandonnée à l'âge de 7 ans, nous écrit Franco. J'ai beaucoup souffert et j'ai détesté pendant très longtemps les femmes. Aujourd'hui, j'ai construit ma vie, mais je suis blessée à vie. Bruno, merci Sébastien, Nicolas, je vous écoute avec beaucoup d'attention. Ces témoignages me ramènent bien des années en arrière. Et puis Joël d'écrire, je vous écoute comme chaque jour, mais aujourd'hui, vous nous donnez avec Sébastien et Nicolas une belle leçon. Les garçons, vous êtes admirables, très émus, en larmes d'admiration. Alors, Jean-Pierre Winter, vous venez d'entendre le témoignage de Sébastien. Sébastien qui décrit avec tellement de, je sais pas, tellement de clarté, tellement de clairvoyance, sa situation, sa difficulté à trouver une place dans l'existence, sa dissimulation permanente quand il était petit, à pas dire que c'était sa famille d'accueil, mais qu'en même temps c'était à pas dire non plus que c'était pas sa famille. Enfin, il a très bien décrit le nomadisme affectif qu'induit le fait d'être abandonné à la naissance.
Il a très bien décrit parce qu'il a employé des mots senti, des mots très forts. Il y a une exacerbation des sentiments. Hein. Il a parlé de colère, il a parlé de lâcheté, il a parlé de honte. C'est très important d'ailleurs, la honte. C'était un phénomène curieux. Les enfants abandonnés, voire même certains orphelins, ont honte d'être orphelins, honte d'avoir été abandonnés, comme s'ils portaient en eux une forme de culpabilité qui peut être plus ou moins consciente ou inconsciente, qui les amène à se poser la question qu'on a entendue, hein, qu'est-ce que je fais là ? C'est-à-dire aussi, qu'est-ce que j'ai fait pour en être là, pour être arrivé là ? Donc c'est extrêmement touchant parce que d'abord ça nous ramène à des questions que quand on n'est pas orphelin ou enfant abandonné, on est amené à se poser quand même. Sauf qu'on se les pose d'une façon évidemment moins exacerbée que ce qu'on vient d'entendre, qui est particulièrement fort. Et puis il y a la question aussi qui a été soulevée à la fin du témoignage de Sébastien, qui est qu'est-ce que je vais transmettre et comment je vais pouvoir transmettre ? Qu'est-ce que je vais raconter ? Si je sais rien de mon histoire, qu'est-ce que je vais dire à mes descendants si j'ai rien à leur dire à mes enfants sur leurs ascendants ? Et ça crée une situation effectivement particulièrement douloureuse. À quoi s'ajoute le fait que justement ce genre de questions, entre autres, taraude celui qui est orphelin, celui qui est un enfant abandonné ou qui a été abandonné. Ça le taraude parce que cette colère, même Sébastien a été jusqu'à parler de haine. La haine, c'est une façon de maintenir un lien aussi.
Sentiment.
C'est un sentiment qui maintient un lien d'une façon affective, mais c'est là. Et ça peut conduire jusqu'à ce que nous disait Nicolas tout à l'heure, hors antenne. C'est-à-dire que il y pense tout le temps. C'est-à-dire que ça devient une véritable obsession. Et je crois que ce qui est au plus fort de ce que j'ai pu entendre jusqu'à maintenant concernant les enfants adoptés, abandonnés, qui ont perdu leurs parents très jeunes, c'est que ils n'arrivent pas à se sortir, ne serait-ce qu'un instant particulier, ils n'arrivent pas à se sortir de la question de l'origine. C'est-à-dire d'où je viens, pourquoi je suis là, la question de l'origine qui nous concerne tous, évidemment, mais qui, là, est une obsession continuelle, une obsession permanente.
Est-ce que c'est une obsession pour toi, Nicolas ? Est-ce que c'est permanent à ton esprit ?
Permanent, non, parce que je trouve des moyens de pas y penser.
Oui.
Notamment en faisant du sport. En étant avec mes amis, où là, on prend plus de liberté sans penser à tous les problèmes que notre vie contient.
Ça veut dire qu'en fait, tu es obligé, entre guillemets, de te distraire pour pouvoir ne pas y penser.
C'est ça.
Il faut que tu sois entouré, il faut qu'on t'amène ailleurs pour que tu n'y penses pas. Sinon, c'est tout le temps en toi.
Sinon, j'y pense tout le temps.
Est-ce que vous la ressentez, vous, dans les enfants, Alexandra, que vous accueillez, hein, au village SOS d'enfants dont vous vous occupez, ces 7 enfants qui sont chez vous, vous ressentez la honte, la colère chez eux, ou un besoin éperdu d'amour? Ils sont comment?
Les plus petits montrent beaucoup plus d'attachement. Ils ont besoin de câlins. De bisous.
Les fameux pots de colle.
Les fameux pots de colle, oui. Les plus grands sont moins démonstratifs. Ouais. Mais il y a cette façade un peu de vide, d'expression de vide. Ouais. On se demande justement où ils ont la tête. Parce que quand on leur parle, des fois, ils ne répondent pas tout de suite. J'ai l'impression ils sont continuellement en questionnement à l'intérieur. Ouais.
On va se retrouver, si vous le voulez bien, dans un instant sur cette antenne pour poursuivre nos échanges. À tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL.
On est fait pour s'entendre.
Flavie Flamand.
C'est Listelle qui nous envoie un tweet. Je ne sais pas vous, mais moi à 16h30, je vais étouffer ma fille de câlins. Et puis Patricia qui nous raconte son parcours difficile. Hein, un papa alcoolique, une maman malade et qui nous raconte tout ce qu'elle a vécu. Ça a été compliqué aussi pour Patricia. Mais aujourd'hui, nous écrit-elle, j'ai 2 beaux enfants que j'ai couverts de baisers et de câlins. Est-ce que toi, Nicolas, tu as envie de fonder une famille plus tard alors que, à la base... quelque part, tu n'as pas tes parents.
Je pense que c'est le désir de tout le monde, créer une famille à son image.
Oui.
Et en essayant de ne pas reproduire les mêmes erreurs que ce qu'ont fait nos parents.
Ça fait partie des choses qui t'inquiètent quand tu te projettes dans l'avenir? Tu dis, j'espère ne pas refaire la même chose?
C'est toujours un questionnement. Une peur, une crainte de reproduire ses erreurs.
Alors, Jean-Pierre Winter, c'est normal, docteur? Oui. Mais on peut peut-être aussi expliquer que parfois on a tellement manqué d'amour qu'on en a tellement à revendre et à donner.
Il y a un proverbe indien qui dit « on a ce qu'on donne ». Donc en donnant de l'amour, on finit par en avoir d'une certaine manière. Mais la peur de la répétition ne concerne pas que les orphelins ou les enfants abandonnés. Tout le monde a peur de répéter le schéma familial, les mauvais traitements, ce qu'on a détesté, ce qu'on a haï dans sa vie.
Oui.
Mais là, évidemment, c'est tellement radical que ça peut conduire certains à hésiter. Mais on a entendu dans un témoignage tout à l'heure que c'est évitable. C'est-à-dire que cette peur, on peut passer par-dessus. Ça ne veut pas dire que ça garantit quoi que ce soit du côté de la répétition. Mais après tout, dans la répétition et dans la reproduction, on ne sait pas toujours très bien ce qui va se répéter.
Oui.
On peut très bien répéter à son insu des tas de choses qui étaient finalement positives.
Bien sûr, évidemment. Et alors justement, dans les témoignages que nous avons reçus aujourd'hui et les discussions que nous avons autour du thème qu'on propose à nos auditeurs, on a parlé principalement des enfants, à l'instar de Nicolas ou de Sébastien, qui ont été séparés de leurs parents à la naissance ou même un peu après la naissance, mais dont les parents sont toujours en ville. Il y a aussi les enfants qui sont nés avec des parents qui sont partis très tôt. Et puis, il y a les enfants qui ont été retirés. Alors, c'est un petit peu aussi ton histoire, hein, quelque part, Nicolas. Retirés de la garde de leurs parents parce que leurs parents étaient des parents défaillants. Alors, Nicolas, est-ce qu'il t'est arrivé de te dire, finalement, est-ce que je ne suis pas mieux dans cette situation de manque de mes parents? Est-ce que je ne suis pas plus à l'abri aujourd'hui? Est-ce que tu t'es demandé si ça aurait été mieux avec ta mère qui, visiblement, a reproduit ce schéma longtemps après?
Ma situation actuelle fait que ce manque, de pas avoir vécu avec ma mère, me dit que au final c'est peut-être mieux parce que je m'en sors assez bien et qu'avec elle j'ai une crainte de savoir où j'aurais fini, comment j'aurais fini si j'avais vécu avec elle.
Jean-Pierre Winter, parfois, c'est terrible à dire, mais la douleur, le pire, parfois, des enfants ont plus de chances de bien grandir sans leurs parents qui peuvent être toxiques, même si effectivement la situation est profondément injuste et douloureuse.
Voyons les choses de l'autre côté.
Oui.
Il y a des parents pour lesquels l'abandon est un don. C'est-à-dire qu'ils se pensent eux-mêmes incapables d'élever un enfant et ils se disent qu'en le confiant à d'autres, Alors quelquefois, c'est malvenu, c'est-à-dire que les rencontres qui vont s'en suivre ne sont pas forcément heureuses, mais ils se disent que les autres sauront mieux faire, à tort ou à raison d'ailleurs, hein, mais quelquefois à raison.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Alexandra ?
Ben, c'est vrai qu'il y a des parents... je trouve que c'est bizarre le fait que les parents ils soient défaillants avec un enfant, mais qu'ils le soient encore après, avec un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième.
Oui, refaire ça, la même chose. Voilà. C'est inconséquent de faire des enfants pour les placer à chaque fois.
Mais c'est, ce qui est sûr, c'est qu'il existe des parents. Alors d'ailleurs, vous remarquez que nous, on parle de parents, alors que depuis le début, dans les témoignages qu'on entend, on ne parle que des mères. Oui. C'est d'ailleurs très curieux que les pères ne soient en aucun cas mis en question dans cette affaire. Mais enfin, il existe des parents, donc généralement des mères, qui sont totalement inconséquentes sur le plan de la procréation, qui ne savent pas,
qui font des enfants.
Et il en existe aussi qui aiment l'état de grossesse, mais qui n'aiment pas ensuite s'occuper des enfants. Et puis il y a toutes celles qui n'ont pas les moyens économiques, psychiques ou relationnels d'assumer les actes, mais qui auraient envie. C'est-à-dire, ce sont quand même des témoignages de désir d'enfant.
Et de toute façon, des personnes en souffrance. Et les premières en souffrance, ces personnes, ce sont les enfants dont on parlait aujourd'hui. En tout cas, moi je trouve, Nicolas, si je peux me permettre, que ton témoignage et puis le fait de te rencontrer, ça nous donne vachement d'espoir. Et ça nous permet quand même de pouvoir répondre à cette question. Peut-on grandir sans parents ? On ne peut pas grandir sans amour, ça c'est sûr. Mais ce qu'on aura entendu dans ton témoignage aussi, Nicolas, c'est qu'on peut grandir avec des frères et sœurs, on peut grandir avec un entourage aimant et des gens qui te regardent en se disant bah, « En fait, ouais, c'est chouette que tu sois là. Quoi. C'est chouette que tu existes parce que bah, visiblement, je trouve que tu as un avenir plutôt sympa devant toi. Hein. » Enfin, tu nous donnes confiance en tout cas, tu vois. C'est quoi, ça fait bizarre de s'entendre dire des choses pareilles ?
Oui.
C'est touchant, ça te fait plaisir ?
C'est pas des trucs qu'on entend souvent.
Oui. Bah on te le dit en tout cas. Et je suis pas la seule, figure-toi, nos auditeurs aussi.
Prendre les compliments, les enfants.
Eh ben écoute, on te les envoie quand même les compliments. T'en feras ce que tu voudras, mais c'est sincère. On se retrouve tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Flavie Flamand.
On est fait pour s'entendre.
RTL.
Allez, vraiment, je vous remercie d'avoir été à notre écoute aujourd'hui et d'avoir partagé aussi ces émotions. Peut-on croire à l'amour ? C'est l'ouvrage donc, de Jean-Pierre Winter aux éditions Le Passeur et Transmettre ou pas chez Albin Michel. Merci beaucoup, Jean-Pierre Winter. À bientôt, j'espère, dans ce studio. Merci beaucoup, Alexandra Magie. Vous embrasserez tous les enfants. Magie. Vous embrasserez tous les enfants.
Merci beaucoup,
d'être venu représenter donc, Village SOS Enfants. Merci, Nicolas. On te souhaite plein de bonnes choses pour l'avenir. À la prochaine. On se donne des nouvelles. Je t'embrasse.
Merci.
Allez, c'est Lista qui nous envoie un tweet. Demain, vous nous proposez un thème sous la ceinture, quelque chose de léger pour finir la semaine. Ah bah disons, c'est pas possible, vous êtes voyante, c'est Lista. Parce que demain, on va se demander quelle est la place que tient la sexualité dans nos pensées. Bah oui, figurez-vous que les femmes y penseraient toutes les 51 minutes et les hommes toutes les 28 minutes. Ça, c'est vous dire. Ce sera demain, est-ce qu'on ne pense qu'à ça à 15h sur RTL. Tout de suite, voici Laurent Ruquier et les grosses têtes. Moi, je vous embrasse et je vous remercie pour votre fidélité. À demain.
Vous écoutez RTL.